Oui, Daniel Mermet, ben bonjour. Je voudrais savoir quand est-ce que les émissions recommencent. Donc voilà, c'était tout simplement pour ça, parce que depuis je travaille et je m'ennuie un petit peu. Donc je voudrais savoir à quelle heure, parce qu'il était possible que vous changiez d'horaire. Donc j'aurais voulu savoir un petit peu si vous pouviez me recontacter pour avoir des messages, enfin pour avoir un petit peu les horaires. Voilà, ou si France Inter peut les communiquer, parce qu'on ne sait pas du tout. Voilà. Je suis dans le midi en train de faire les conserves de tomates, donc voilà.
Mère, mais reviens parmi les siens, avec ses fonctionnaires feignasses, parasites et propres à rien. Mère, mais reviens parmi les siens, avec ses potes bougnoules qui prennent les Français pour des chiens. Est-ce qu'il est juif, on n'en sait rien. Mère, mais reviens, il va vous bourrer le chou jusqu'au printemps prochain, pour vous faire tous voter, Lionel Jospin. Tatina Bourque. Mère, mais reviens parmi les siens. J'espère pour pas trop longtemps quand même.
Salut Daniel, Rémi de Lyon. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Ces mots prêtés à Voltaire résument sans doute un peu ma position. Ton esprit partisan et ton arrogance n'est à mon sens que la réponse nuancée aux maux d'une société un peu aveugle et sourde. Longue vie à la base si j'y suis, à 17h bien sûr, cordialement. Salut Daniel.
Oui, bonjour Daniel Mermet, c'était pour vous soutenir parce que j'ai appris que vous allez changer de tranche horaire sur le plan B et vous allez passer de 17h à 15h sur France Inter. Je trouve que c'est une honte parce que les gens simples de la base, le populaire n'aura plus l'occasion de vous entendre parce qu'il sera normalement au travail à moins qu'il soit chômeur. Voilà, je trouve ça honteux. Alors, je voulais vous soutenir pour que vous restiez sur cette tranche horaire-là. C'est une tranche horaire qui est parfaite. Voilà, au revoir.
Salut, c'est Alex et Denis. On téléphone parce que là, on est... on va bien, en fait. C'est ça le problème, c'est que tout va bien. Donc, nous ça va, hein, c'est vrai.
On est content.
Nous on est content, donc on voulait dire que nous on est nous ça va. Donc vu que c'est rare en ce moment, on avait envie de le dire.
Ah, ouais. On est content Daniel.
Nous, Daniel, on est content. Voilà.
Des news avec moi les filles.
News.
C'était Renaud, Vanuatu.
Bonjour, Marie. Alors, une AMG. Je viens de recevoir donc l'email par rapport à l'émission qui va effectivement être à 15h à la place de 17h. Voilà quoi. Comme vous le dites si bien, malgré face à cette réaction de fond, la direction droite dans ses bottes a pris la responsabilité de ne pas entendre ses auditeurs intempestifs. Et bien, la lutte continue, et puis je vous fais des gros bisous. Marie de la Vendée, au revoir.
Oui, bonjour, c'est Jackie. Eh bien, je suis ravie, heureuse de savoir que l'émission reprend à l'heure prévue. On a au moins un espace de liberté sur lequel on va pouvoir continuer à s'exprimer. Je vous embrasse tous. Au revoir.
Voilà, je viens de lire avec une grande déception la grille des programmes. Rien n'y a fait, malgré le nombre de signataires de la pétition. L'émission est programmée à 15h05. Si l'on avait encore quelques illusions sur le poids des auditeurs, notre poids est nul. Excusez-moi, je suis émue. Donc les imbéciles, les dirigeants imbéciles persistent et ont signé. Allez, au revoir et puis à bientôt. On vous écoutera plus tard sur Internet.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Donc j'ai appris sur la nouvelle grille de France Inter que vous alliez passer dorénavant à 15h. Donc, permettez-moi de m'en réjouir à titre personnel, puisque avec mon métier de professeur de musique, en général, à 17h, je ne pouvais pas vous écouter, et maintenant, je vais pouvoir. Donc, j'espère, malgré tout cela, que cela ne vous fera pas perdre trop d'auditeurs. Excusez-moi pour bafouiller un peu, je n'ai pas trop l'habitude de parler. Voilà, je vous remercie, à bientôt.
Voilà, désolé. Là-bas, continue. La planche était bien savonnée, les pots de banane bien disposés, tout nous poussait vers l'île de Ré, mais désolé, ami fossoyeur, là-bas, continue, parce que vous êtes plus de 215 000 à avoir répondu à l'appel du 18 juin, sauvons là-bas, parce que cette pétition en ligne a reçu 10 000 signatures par jour, pendant 20 jours, entre le 18 juin et le 7 juillet, sans compter des milliers de soutiens par courrier qui continuent de nous parvenir. Parce que le 29 juin dernier, au gymnase Japy, à Paris, vous avez fait salle comble pour acclamer à la fois Alain Rey, Serge Halimi, Louis Bezon, Florence Aubenas, et là-bas, sur la question « Où va France Inter ?» Et parce que cette question reste posée, parce que l'équipe de la Basse Si J'y Suis est plus remontée que jamais, et parce qu'il y a déjà pas mal de monde à la NPE, parce que c'est une année à ne pas aller à la pêche à la ligne, parce que là-bas, comme une certaine sociologie, est un sport de combat, parce que il se passe des choses encore plus importantes dans le monde et que nous avons encore envie de les raconter, et puis surtout et avant tout parce que la nouvelle direction de France Inter ne nous a laissé aucun choix entre soumission et démission. On l'avait lu dans cette pétition, la base n'est pas une émission neutre et cette relégation à 15h n'est pas neutre, surtout au seuil d'une importante échéance électorale, et la nouvelle direction de France Inter est évidemment offusquée par de tels soupçons et de telles calomnies, innocente comme l'agneau qui naît. Cette direction n'a pas l'ombre du début de la moindre arrière-pensée de nature politique ou idéologique. Des élections, quelles élections? Des pressions, quelles pressions? La seule et unique mission de nos nouveaux maîtres est de redresser les chiffres d'audience, soit, mais alors pourquoi était-il si urgent de reléguer une équipe qui gagne? Jusque-là, les explications médiamétriques de la direction n'ont pas entièrement convaincu les professionnels de la radio, ni les observateurs des médias qui, du Nouvel Observateur au Canard Enchaîné, du Monde Diplomatique à Marianne, du site Acrimed au journal Le Plan B, ont dénoncé normalisation, climat de reprise en main et atteinte au pluralisme. Et pas dupe non plus, donc, les 216 000 AMG, les AMG maintenant, c'est les AMG, c'est les auditeurs modestes et géniaux, qui ont signé cette pétition. Il faut dire que jamais nous n'avions imaginé une telle mobilisation, surtout si vous vous souvenez, c'était le moment de la Coupe du Monde, c'était la fin juin, on a plutôt envie de profiter des beaux jours. Eh bien, vous êtes mobilisés. Par comparaison, la pétition lancée le 25 juin, suite au départ de Serge July, directeur de Libération, avait hier recueilli 1762 signatures. Eh bien, face à cette réaction de fond, la direction de France Inter, de Radio France, a pris la responsabilité de ne pas entendre, en effet, ses auditeurs intempestifs. Pourtant, il s'agit tout simplement d'auditeurs vigilants et actifs qui sont la fierté de ceux qui, chaque jour, font France Inter, des citoyens et non pas des clients. Alors, on a reçu énormément de messages à fin juin, début juillet, tout au cours de l'été. J'avoue qu'on les a pas tous encore ouverts et lus. Mais ce qui est évident, c'est que, à travers tout ça, vous exprimez la crise de confiance qui s'est développée entre France Inter et ses auditeurs, suite notamment au manque d'équité flagrant dans le traitement de la campagne pour le référendum de mai 2005. Et plus généralement, dans un paysage médiatique de plus en plus contrôlé par les puissances d'argent, eh bien, les auditeurs d'Inter, ou du moins ceux qui se sont manifestés à travers ces pétitions et ces messages, attendent de la radio publique qu'elle affirme son indépendance envers tout pouvoir économique, politique ou médiatique, et fasse entendre en effet sa différence et non sa ressemblance. Car prendre le chiffre d'audience pour seul but, c'est aligner France Inter sur le système commercial des radios privées et c'est préparer sa privatisation, c'est préparer au moins dans les esprits sa privatisation, ce qui est la première colonisation. La dérive n'est pas nouvelle, c'est vrai, voilà des années que France Inter est une marque et nos émissions des produits. Aucun autre horizon n'est évoqué, aucun projet, aucun souffle à la hauteur d'un tel bien public. L'exigence des auditeurs, telle que nous l'interprétons au moins, n'est ni de gauche ni de droite. Elle appelle à une vraie information, à un vrai débat sur le contrôle des médias publics, sur les garanties de leur indépendance, notamment, encore une fois, dans la campagne électorale qui s'ouvre. Eh bien, on en fera un de nos thèmes de travail cette année. Il y a, dans ce sens, beaucoup de pain sur la planche et nous comptons sur vous. En tout cas, sachez qu'avec nos remerciements, je dois vous dire que ce grand souffle de soutien nous a redonné des ailes. Nous concoctons projets et complots que partout les AMG, les auditeurs et auditrices modestes et géniales restent en alerte. Attendez-vous à des messages en provenance de Londres ou du Maquis. Voilà, et ça m'amène au sujet du jour. Vous savez qu'on a une crise de jeunisme sur France Inter et nous, on va rendre un hommage à un monsieur qui a disparu assez discrètement au cours de l'été et qui avait 92 ans. Il s'agit de Maurice Criégel Valrimont qui, en août, le 4 août, a tiré sa révérence. Et Maurice Criégel Valrimont, ça dit peut-être pas tout à tout le monde, pas autant que ça mériterait. C'est une très grande figure de la résistance, de l'engagement politique, de tout un esprit et de tout un engagement que nous avions rencontré. C'est François Ruffin, le jeune François Ruffin, qui avait, il y a quelque temps, rencontré ce monsieur. Et on a eu envie de commencer cette nouvelle saison de Là-bas si j'y suis, avec ce repère-là, avec cet hommage, mais surtout avec la voix de cet homme. Il me semble que c'est un bon point de départ. Ça fait partie des ancêtres que nous revendiquons. Nous allons donc passer cette heure avec cet homme et ce dialogue entre François et Maurice Criégel Valrimont. Et je voudrais vous dire aussi que vous pouvez nous écouter à 17h, bien évidemment, à 17h. Vous pouvez nous écouter sur franceinter.com, www.franceinter.com, ou aussi sur www.labas.org, la-bas.org, où les émissions sont archivées durablement. C'est un site qui a été créé par un auditeur. C'est pas du tout mon site personnel. C'est un auditeur amateur. C'est un AMG lui aussi qui a créé ce site il y a quelques années, qui rend bien des services puisque on peut réécouter les émissions pendant longtemps parce qu'elles sont en archive. Et puis on va relancer, bien évidemment, ça on y tient beaucoup, les repères de Là-bas si j'y suis. Vous savez que l'année dernière, on a suscité la création de repères un peu partout en France, dans des villages, dans des quartiers, dans des villes, un peu partout. C'est votre initiative, c'est vous qui décidez de vous retrouver entre auditeurs de France Inter et de Là-bas si j'y suis, dans un bistrot. Et vous fixez les rendez-vous, vous dites, bah voilà, on se retrouve toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, c'est comme vous voulez. Et on vous annoncez vous nous appelez, sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, par exemple, ou sur le mail de l'émission France Inter de Daniel Mermet. Et, on discute un petit peu, puis voilà, on crée un repère. Et on voit ces repères se multiplier. Bien évidemment que, tout ce qui nous est arrivé aux uns et aux autres au cours de ces derniers mois va, j'en suis sûr, renforcer ces repères. En tout cas, on s'est promis au cours de l'année de solliciter ces repères comme moyen, comme agent de liaison entre Là-bas si j'y suis et la France profonde. Voilà, je vous, très sincèrement, nous, toute l'équipe, je vous remercie pour ce soutien. C'est pas une figure poétique que de dire que ça nous redonne du courage et des ailes. Je vous remercie tous et on remercie évidemment le repère de Bègle qui a ses retrouvailles, sa réunion ce soir.
Donc le 4 septembre au poulailler à Bègle, place du 14 juillet, on se réunira vers 19h pour un apéro tchatch, comme on les appelle ici, pour qu'on se montre, qu'on se fasse une soirée diapo de nos vacances et qu'on aborde la rentrée serein et mobilisé. Voilà.
Alors a priori c'est aujourd'hui, donc rendez-vous tout à l'heure au poulailler à Bègle.
Voilà, exactement.
Ouais. François, c'était la tôlière, toi, ici, alors du poulailler à Bègle. Il y a un magnifique vaisselier derrière avec un tiroir. Là-bas, si j'y suis, trois petits points. Alors, c'est quoi ce tiroir?
Ce tiroir, c'est justement pour respecter tous les clients qui rentrent ici. C'est-à-dire que là-bas, si j'y suis, ou on connaît ou on ne connaît pas. Donc, les gens qui viennent au poulailler ne sont pas obligés de connaître ou d'être des auditeurs. Ceux qui connaissent me font « Ah, il y a quelque chose ?» Je fais « Oui, c'est pour vous ». Et donc, quand on ouvre le tiroir, eh ben, il y a le premier message imprimé que Jess avait passé, petite allocution énervée de Jess Porley sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, a imprimé ça. Puis, ben, il y a la revue de presse, parce que quand Sud-Ouest reprend, participe au repère, vient voir un peu ce qui s'y passe, eh ben, il y a un petit article, voilà,
donc
il y a une
revue
de presse.
Donc ça, c'était le vendredi 30 juin 2006, dans le Sud-Ouest.
Voilà.
Bègle, des auditeurs prennent la défense de l'émission « Là-bas, si j'y suis », diffusée sur France Inter.
Bon, il faut lire le contenu. Hein,
un autre monde est possible, aurait pu clamer les participants, mais pas un monde sans Daniel Mermet. Pour signifier leur soutien à l'animateur de l'émission « Là-bas, si j'y suis », diffusée quotidiennement sur France Inter, une trentaine d'auditeurs s'étaient donné rendez-vous dans un café de Bègle, le Poulailler, jeudi soir. Objectif, créer le tout premier repère de Gironde, espace de débat citoyen dans la continuité de l'émission, et faire pression sur France Inter, leur radio préférée, du moins jusqu'en septembre.
Voilà. Après, ben, y a la pétition, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas Internet, parce qu'il y a beaucoup
donc
de
on
gens...
On peut signer ici, au directement, repère, le poulailler, on peut signer à la main.
À la main, voilà, à la main, bon. sans ordinateur. Et puis, il y a la dernière convocation.
Non, ici, au-dessus, il y a...
Voilà. J'essaie de faire découvrir des choses.
Cornichons et pisse-sel. Non, mais là, on fait bonne équipe, quoi.
Ouais.
Tout ça, ça nous concerne, ça nous convient. Et on est très fiers. de partager le vaisselier avec tous ces beaux produits. Donc, entre les truffes, les cornichons, les épices, les sèches, l'huile en vrac, les foie gras.
Et attention, il y a la morue de Bègle. Voilà. Je continue à manger mes huîtres. Parce que
bon appétit, François.
Merci.
Nous assistons à une recrudescence de cette agitation des comités populaires. Dans telle grande usine, les communistes passent même à l'action terroriste, sans souci de la vie des ouvriers. Et une bombe était récemment déposée dans un atelier. La masse est dressée contre ces pratiques, relevant non d'une doctrine politique, mais de l'aventurisme, dont ont toujours fait preuve, malgré leurs protestations, les dirigeants du Parti communiste, auquel on accola faussement le nom de Français.
Mais ne croyez-vous pas que la classe ouvrière sent instinctivement, avec son bon sens et son expérience habituelle, le guet-apens dans lequel on veut la faire tomber?
C'est exact, mais il faut que nous l'informions davantage encore. Déjà, dans une série de réunions et de conférences, nous avons mis sous les yeux d'une foule attentive des documents irréfutables. Nous continuerons cette propagande jusqu'au moment où le prolétariat des usines fera justice lui-même de ceux qui veulent son malheur, sur lequel ils installeraient le régime du despotisme et de la tyrannie.
Le seul moyen, et c'est ça qui justifie l'optimisme, c'est de s'atteler à la tâche. Si vous vous attelez à la tâche, vous avez de meilleures solutions que dans le cas contraire.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Maurice Criégel, Valérie Mont et François Ruffin, un résistant.
Flight number 2. Arriving from...
On prononce Criégel Valrimont, c'est bien ça, ou Criégel Valrimont?
On prononce Maurice Criégel Valrimont pour marquer que en 18, l'Alsace a cessé d'être germanisée. Mes premiers mots de français, c'est en 1918, quand les troupes françaises à Strasbourg, nous sommes des meutes de gosses de 4 à 8 ans, et nous nous précipitons vers les poilus qui arrivent, et ce sont nos quatre premiers mots de français que nous prononçons tous ensemble. Bonjour papa, salut poilu. Ou salut poilu, bonjour papa. Tous les gosses qui sont là, on leur a dit que leur père était soldat. Et ce sont mes premiers mots de français en 1918.
Français, quiconque parmi vous, fonctionnaire, militaire ou simple citoyen, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipitez la patrie dans les pires malheurs.
Ici la France. Ici la France.
La levée des couleurs, un drapeau, il y en a de plus grand. Un mât, il y en a de plus haut. Mais ce mât, c'est une branche coupée vivante au tronc d'un arbre des sommets. Et parce que ce mât tordu est un prolongement de la terre, ce n'est plus un drapeau qu'il porte, mais le drapeau. Les scènes que nous voyons ont été tournées par les jeunes gens du Maquis, en plein cœur du royaume de la Gestapo. Qu'elles aient traversé les 20 polices qu'entretiennent Himmler et Darnan sur notre territoire est en soi seul un miracle de courage et d'audace. L'autre miracle, c'est que malgré les 20 polices et les troupes allemandes qui battent de leurs bottes nos villages, nos champs, nos chemins, les jeunes gens de France, chaque jour, montent vers le Maquis, volontaires, toujours plus nombreux pour une vie toujours plus rude, par
Maurice
un,
Schumann.
Par deux, par trois, ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers. L'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. La résistance française avait déjà ses journaux comme elle avait ses héros, elle avait ses livres comme elle avait ses martyrs. Elle a dit « J'aurai mes films » et elle les a eus. Et grâce à elle, vous les voyez. Tous, armées secrètes, francs-tireurs et partisans, porte-francs des mouvements unis de résistance, organisation de résistance de l'armée, maquis, tous forment les forces françaises de l'intérieur.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de l'abîme, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Si chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.
Thank you.
La tristesse au Bangladesh, comme à Clichy-sous-Bois, c'est la soumission. C'est la soumission à la domination. La tristesse, c'est quand le dominé accepte et même collabore à son propre asservissement. La tristesse, c'est quand on entend la certitude de l'inéluctable. La tristesse, c'est la voix qu'on vient d'entendre, celle de Philippe Pétain, qui incite à la soumission, à la collaboration. Mais il y a aussi l'autre voix qu'on vient d'entendre, là, c'était celle de Maurice Schumann, qui incitait, qui invitait, qui encourageait à la résistance. Évidemment, du courage, il en fallait. Tant ceux qui étaient enclins à résister, français de toute sensibilité, devaient braver l'insulte d'être des terroristes, des traîtres. Les choses étaient aiguës, les choses étaient féroces, la situation était extrêmement désespérante et violente et espérante aussi pour certains. Et malgré cela, le 15 mars 1944, le Conseil national de la résistance publiait un programme qui aujourd'hui ferait de ses auteurs des gauchistes allumés, cinglés, tant leurs prétentions semblerait aujourd'hui irréaliste, une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours, le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. Je prends quelques éléments de ce texte qui n'était pas seulement des idées des communistes engagés dans la résistance, mais aussi bien des gaullistes, puisque c'est ce Conseil national de la résistance et ses textes avaient été dirigé tout d'abord par Jean Moulin. Beaucoup d'hommes et de femmes ont participé à cette aventure intellectuelle, politique, humaine, remarquable, dont Maurice Criégel Valrimont, que François Ruffin a rencontré pour nous.
Je voudrais savoir, avant d'entrer dans la résistance, peut-être même avant la guerre, qui était Maurice Criégel Valrimont ?
Vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce que, en ce qui me concerne, je ne suis pas devenu résistant, je n'ai jamais cessé d'être résistant. Et en fait, étant né à Strasbourg en 1914... Quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, nous allions traverser le Rhin à la nage. C'est-à-dire que c'est la porte à côté. Et nous savons ce qui se passe là-bas. Là-bas, il y a des affrontements déjà. Les gens se battent dans les rues, avec des armes dans certaines occasions, qui sont le signe annonciateur de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Et même avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, en tant qu'étudiant en droit à l'époque, j'étais un jeune antifasciste. Certains de mes professeurs auraient voulu que je fasse une agrégation en droit. Je suis lauréat de la faculté de droit de Strasbourg. Mais moi, j'étais un étudiant relativement avancé et je voulais changer le monde. Alors tout ce qui ne comportait pas cela comme choix essentiel, je n'étais pas d'accord.
Donc vous avez renoncé à faire carrière d'avocat ou
absolument,
l'agrégation ?
Dans toute ma famille et dans mon entourage universitaire.
Et vous avez fait quel choix alors à ce moment-là ?
J'ai fait le choix de vouloir changer le monde à moi tout seul.
Peut-être pas tout seul quand même.
Exactement, vous avez tout à fait raison. Non, mais j'ai fait le choix, comme c'est le cas des jeunes un peu ardents, de vouloir participer à des grandes choses. Alors, la vérité, c'est que pour faire ce choix, j'étais en opposition avec mon milieu. J'ai quitté Strasbourg, je suis allé au printemps de 1936. J'ai choisi mon moment, je suis allé à Paris, où il y avait quelques-uns des étudiants que j'avais connus à Strasbourg. Et là, comme je ne voulais pas qu'on m'aide, je voulais être indépendant, je choisissais entre acheter de quoi manger et acheter des timbres pour faire des offres d'emploi. Et mes derniers sous sont allés dans les timbres pour écrire dans les contentieux de banque et d'assurance pour trouver du travail. Et c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé du travail un tout petit peu avant mai 36. Et c'est comme ça que je suis devenu employé d'assurance. Et où un jour, mon chef de service m'offre une promotion qui consiste à doubler mon salaire. Et puis je me mets à rire. Et je lui demande s'il sait qu'on a voté pour que je sois secrétaire général de mon syndicat 8 jours avant. Alors il se marre aussi, il rit aussi. Et la conversation s'arrête évidemment là. Mais c'est pas ça qui est important. C'est que très peu de temps après ça, je suis licencié pour insuffisance professionnelle. Je suis mobilisé et vu l'exode. J'ai vu en Auvergne, j'ai vu des paysans qui vendaient de l'eau pour les bébés. Ça m'a foutu. Je les aurais tués. C'était terrible. La situation était terrible. C'était tout à coup, notre France. C'était misérable. Vous allez maintenant me demander pourquoi j'interviens, pourquoi je fais quelque chose. Voilà.
C'est comment devient-on résistant à ce moment-là?
Tout ce que je vis à ce moment-là, pour le jeune homme que je suis un peu exalté, d'abord un pays occupé, quand on vous dit vous êtes un pays libre, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand il n'est plus libre, ça veut dire quelque chose. C'est terrible, terrible. Tout est terrible. Vous descendez les Champs-Élysées et tout à coup, vous avez une musique militaire allemande à côté de vous et vous êtes obligé de vous ranger. Rien que ça. Vous voulez les assassiner, vous voulez les tuer, vous voulez les supprimer. Et c'est eux qui défilent. Et tout est comme ça. Vous avez une image de votre pays. Vous avez vécu les Lumières. Vous avez aimé les exaltations de la liberté, même ses excès. À cette époque, je n'ai pas encore été communiste du tout. Mais je connaissais les hommes. C'était des braves types. Ils avaient raison, ils avaient tort, mais c'était des hommes entièrement dévoués aux autres. Et on les fout en tôle. Je ne peux pas accepter ça. Quand tout est à refuser, il faut dire non. C'est vrai que vous savez que de vous engager, ça comporte des risques. Mais il y a un moment où ne plus être un homme, c'est pire que de mourir. La question vient normalement, on dit, mais c'était une petite minorité au début. Ce que ça veut dire. Quand vous prenez les années 40-41, vous avez militairement, les gens plantent des petits drapeaux sur les planisphères ou sur les maps mondes. Les Allemands vont jusqu'au fin fond de la Russie. Même les Italiens occupent l'Afrique. Les Japonais occupent là pratiquement toute l'Asie, etc. Les autres avancent partout. Alors vous allez dire à votre voisin, va sur les Champs-Élysées détruire la formation allemande. Ça n'a aucun sens. Donc ne dites pas, il y en a peu. Dites ce qui est vrai. Il y en a quand même et tout de suite. C'est ça la réalité.
Grenoble, où sévit le terrorisme, a été le théâtre d'un grave attentat. La poudrerie de la ville a sauté. Des morts, des blessés, 2000 sinistrés, tout un quartier détruit ou gravement endommagé. sang français coule à nouveau, mais cette fois versé par d'autres Français.
Les terroristes, c'était eux. Le terroriste, c'était lui. C'est l'homme que nous écoutons aujourd'hui. Maurice Crégel-Valrimont, qui devait faire face, était en but, lui et d'autres jeunes Français de l'époque, à la propagande gouvernementale dont on vient d'entendre un petit extrait. Comment devient-on résistant? Comment va-t-on vers la résistance? Comment s'engraine cet engagement?
Vous avez ce sentiment d'exaspération quand il y a les Allemands sur les Champs-Élysées. Vous avez cette colère continuelle contre cette occupation. Mais comment va se traduire votre premier acte de résistance, votre entrée en résistance?
C'est un continuum. La vérité, d'une façon ou d'une autre, compte tenu que j'ai des rapports militants avec beaucoup de gens, j'ai une expérience syndicale et politique. Je ne me perce pas d'illusions. Il ne suffit pas que les gens me disent qu'ils sont contre les Allemands pour que je considère que je suis organisé avec eux.
Finalement, avant la guerre, vous étiez dans un tissu syndical et un tissu politique. Ce que vous dites, c'est que ce tissu syndical et ce tissu politique, pendant la guerre, il était, dès l'occupation, il était plus ou moins disponible pour collectivement former un noyau de résistance.
C'est absolument vrai. Ce que vous dites est très important. Très rapidement, une partie des gens qui avaient déjà une activité, sous une forme ou sous une autre, la poursuivent. Ils se regroupent, ils se rencontrent, ils parlent, ils commencent à faire quelques petits tracts, etc. Ma femme, celle que vous avez vue à l'entrée, avant la guerre, elle était dans les organisations naturistes, etc., qui vont... Et c'est là qu'il y avait des hommes comme Fabien. Mais ils étaient déjà à ce moment-là, ils étaient en rapport. Alors, ce sont des rapports multiformes.
Votre activité en tant que résistant, elle consiste à diffuser des tracts, des journaux, et à organiser plus ou moins une armée, au moins une armée de réserve, une armée de libération.
Des noyaux. Moi, par exemple, je passais mon temps dans les trains de nuit parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Debout. Et j'allais dans toutes les villes de zone sud pour regrouper des éléments capables de diriger les forces militaires. C'était un peu aventureux déjà. Enfin, on faisait, mais on le faisait. Partout, nous arrivons sans difficulté majeure à constituer des états-majors militaires avec des gens ou bien capables ou bien se formant. Enfin, nous le faisons. Les Allemands sont en grande difficulté. Et ils instituent le service du travail obligatoire. Le service de travail obligatoire a été le plus formidable moyen de recrutement de la résistance que nous ayons jamais eu. Jusque-là, une partie de la population, quand on leur disait ce sont des exaltés, ce sont des cinglés, ce sont des terroristes, ils font leur coup et puis ensuite ils font tuer les gens comme otages, ne les suivait pas. Une partie des gens était impressionnée. Quand on leur a dit « Vos gosses, on va les envoyer dans les usines dont tout le monde savait qu'elles étaient bombardées en Allemagne et on y envoie vos gosses, vous ne les verrez plus et on vous les renverra comme cadavres », et que s'est-il passé ? Nous ne sommes pas restés inertes. Nous avons dit aux gens « Ne donnez pas les gosses !» Et nous vous aiderons à les planquer. Et nous n'avons pas simplement dit nous aiderons à les planquer, nous avons organisé le moyen de les soustraire. Nous avons saboté les centres de recrutement, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous avons organisé une industrie du faux papier par centaines de milliers. Parce que le moins que l'on puisse dire de ces enfants, le moins que l'on puisse dire de ces jeunes gens, c'est qu'ils devenaient une armée de réserve. Mais tout de suite, et disponible, et capable d'agir. C'est énorme. Alors, là, vous avez une illustration de ce phénomène qui montre que la division en petits collabos, en petits résistants et en masse inerte, ça n'a pas de sens. Ça ne correspond absolument pas à l'histoire. C'est pas comme ça que ça s'est joué.
Les jeunes travailleurs restant en France ont été placés dans des centres d'application accélérés où ils vont devenir, après un stage de quelques mois, de parfaits ajusteurs ou tourneurs. Ces jeunes pourront être incorporés en France dans des centres industriels ou agricoles aussitôt après la remise du diplôme officiel. Les jeunes gens partis faire leur service du travail ont chaque semaine plusieurs heures de cours qui vont leur permettre, la pratique aidant, d'apprendre rapidement la langue allemande. Le travail dans les ateliers d'apprentissage sous la conduite de contremaîtres expérimentés.
Simplement, là, il y a un moment où il y a quelque chose que je voudrais comprendre, c'est qu'on est dans une lutte de libération, on est dans une lutte de libération nationale, et à un moment, il y a un programme qui surgit, le programme du Conseil National de la Résistance, et qui là n'est plus seulement un programme pour dire nous allons bouter les Allemands hors de France, mais aussi on va instaurer un certain nombre de mesures politiques, de mesures sociales, quand le territoire sera libéré. Alors comment ça se fait qu'on passe d'une lutte de libération nationale, avec toutes les tendances politiques, à la limite on pourrait dire à ce moment-là, à une lutte qui va avoir un contenu politique, un contenu social assez important?
Le seul point sur lequel je fais une toute petite réserve, c'est de dire on passe. La vérité, c'est une évolution normale. Les forces institutionnelles manquent à leur mission. Elles cessent d'être les forces dirigeantes. Elles ne dirigent plus rien. C'est ça la donnée réelle. J'ai pas besoin de vous faire un dessin pour l'armée. Mais tout le reste est à l'avenant. Cette très respectable magistrature qui, à l'époque, a une image quasi religieuse. Est-ce que vous savez combien de magistrats ont refusé de prêter serment à Pétain ? Un seul, dans toute la France. Bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La haute administration, les églises, les forces économiques, c'est épouvantable. L'organisation des comités économiques, c'est directement au service des Allemands. Et tout est à l'avenant. C'est pour ça que je vous dis, on ne passe pas. On n'a rien à passer. Ils ne sont pas là. En même temps, il y a déjà, et il ne faut pas le voiler, la résistance dans son ensemble. C'est pas une idylle dans un pré vert avec des pommes rouges et des lunes brillantes. Ce sont des tendances différentes. C'est la France. C'est la France dans sa différence. Et cette différence, il ne faut pas la camoufler. Je ne veux prendre qu'un exemple. Au comité d'action militaire, le militant syndical que je suis rencontre un homme des 200 familles. C'est Jean de Vogue, c'est un homme des 200 familles, c'est l'industrie sucrière. Il est propriétaire du château de Vaux-le-Vicomte, il est officier supérieur de la Royale. Dans le jargon de l'époque, c'est un ennemi de classe. Mais de quoi lui et moi nous nous apercevons, c'est que dans la mesure où nous voulons la libération du territoire, nous nous rejoignons.
Mais justement, ce qui est surprenant là, dans ce programme du Conseil national de la résistance, c'est qu'on ne se limite pas à la libération du territoire, mais il va y avoir une volonté d'avancée sociale. Et là, on se dit, si vraiment il y avait des gens des 200 familles à l'intérieur de la résistance, comment ça se fait qu'on a un programme qui est fort à gauche?
Mais ça signifie une chose toute simple. Un certain nombre d'hommes, y compris d'origines sociales diverses, prennent conscience de ce qui est majeur du point de vue de l'intérêt national. Patriote, ça veut dire quelque chose. Et je ne revendique pas d'être moi tout seul un patriote. Je ne conteste pas qu'à ce moment-là, De Vogüé est un patriote. Eh oui, mais ça c'est l'histoire. Quand l'histoire grandit, les hommes grandissent avec. et c'est beau à voir. D'ailleurs, vous savez bien à quelle vitesse ensuite on revient en arrière. À toute allure. Et en y mettant la cravache.
Pour la première fois, le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris. Monsieur Saillant, secrétaire de la CGT, président du CNR.
Je voudrais que dans les pays alliés, les hommes d'État nous entendent et nous comprennent, nous, de la résistance française. Nous ressentons au CNR douloureusement l'injustice qui est faite à notre pays lorsqu'on refuse de reconnaître le gouvernement actuel de la France.
Monsieur Dasquier, du Mouvement de Libération Nationale.
Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice. Que les biens des collaborateurs, des puissants seigneurs, des banques et des trusts qui ont trahi soient confisqués, soient saisis, parce que c'est la justice.
Monsieur Tessier, des syndicats chrétiens.
Le syndicalisme chrétien avait préconisé l'instauration de la démocratie économique par l'établissement à tous les degrés de conseils, comités ou commissions paritaires.
Monsieur Gillot du Parti communiste.
Pour que la France soit libérée, il faut qu'il n'y ait plus sur le sol de la patrie ni un Boche, ni un traître.
Voilà, Conseil national de la résistance en mars 1944, avec ce texte que j'évoquais tout à l'heure, où on a pu lire la création de la sécurité sociale, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d'atelier, etc., etc. Eh bien, voilà, on est avec un de ceux qui a vécu cette page d'histoire, et qui n'est pas une histoire abolie, qui est simplement une histoire trop oubliée et un héritage en grande partie dilapidé. Maurice Krigel, Val Raymond, avec François Ruffin.
Aujourd'hui, quand on veut revenir quand il s'agit de dire qu'on va revenir sur des acquis sociaux, on ne dit pas qu'on va détruire les acquis sociaux, on dit qu'on va faire une réforme. Que la réforme va être là pour sauver le système et que le système est en péril parce que il y a soit des déficits publics, il y a des déficits commerciaux, il y a un trou dans la caisse de la Sécu, et tout ça se chiffre est chiffré à chaque fois par les ministères en millions ou en milliards d'euros. Moi, ce qui me paraît assez surprenant, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez contribué à mettre un système de retraite en place à la Libération. À la Libération, il y a eu la sécurité sociale qui a été mise en place, les retraites. Et tout ça se fait dans un contexte où, là, les déficits publics, c'est même plus la peine d'en parler. J'avais relevé un petit extrait de la situation de la France au moment où vous prenez ces mesures. Donc, on nous dit, en 1944, la France est à genoux. 74 départements ont servi de champ de bataille. La production industrielle ne représente que 29% du niveau de 1929. Les recettes fiscales couvrent à peine 30% des dépenses publiques. La dette nationale a quadruplé. Une foison de billets pourchasse une pénurie de produits. Et donc c'est dans ce contexte-là que vous êtes complètement inconscient, vous voulez mettre encore plus la France à genoux. C'est dans ce contexte-là que vous décidez qu'il faut mettre en place une sécurité sociale et des retraites. Mais on a dû penser que...
Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il ne faut pas croire qu'à l'époque, il n'y ait pas des gens qui nous ont dit ce que vous venez de dire. Ils ont dit, vous êtes fous. La France, c'est bien pire que ça. La France n'avait plus de ponts. La France n'avait plus de charbon. La France n'avait plus d'acier. La France n'avait plus d'énergie. Bien, c'est vrai que c'était à peine concevable. Bien, nous sommes passés outre tout bonnement. Nous sommes passés outre et nous avons fait les choses. Alors là, la preuve a été faite. L'investissement social est un investissement économique formidable. Et c'est vrai, je n'ai aucune hésitation à le dire, les 30 glorieuses n'auraient pas été possibles si nous n'avions pas fait cette législation sociale. Historiquement, la chose est démontrée. On pouvait discuter avant. Mais historiquement, on ne peut plus en discuter. C'est grâce à la législation sociale que les progrès ont été accomplis. Ça veut dire tout simplement une chose d'une simplicité puérile. Les gens qui vivent sur le dos des autres, les gens qui bénéficient du travail des autres, les gens qui exploitent les autres, ils n'ont pas de scrupules. Ils sont capables de charité. Mais le fond de leur attitude, le fond de leur attitude est de croire que pour vivre, pour que l'humanité fonctionne, il faut qu'il y en ait qui profitent et d'autres qui subissent.
Mais donc vous vous dites, aujourd'hui, où on vient de nous dire que le poids de la dette publique française, selon les nouvelles normes internationales, a doublé, vous vous dites, c'est pas une raison pour ne pas conquérir de nouveaux droits sociaux ?
Je dis plus que ça. Je dis que, dans toute une série de domaines, le fait de donner, de garantir ces droits sociaux résout le problème posé. Je dis que si on passe de, en fait, 7 millions de gens qui sont hors le circuit du travail, ce qui est le cas, si on passe simplement à 2 millions de gens, le problème est résolu.
Mais c'est comme s'il y avait aujourd'hui un sentiment d'auto-paralysie de chacun. Qu'on s'auto-convainquait que c'est pas possible, alors que finalement, il n'y a pas les Allemands en face. Mais c'est comme si on...
Je suis pleinement d'accord avec vous. Et moi, de ce point de vue-là, d'abord, ma certitude, ça, c'est une évidence. Si vous prenez même les deux, trois dernières années, vous avez connu, il y a quelques années, comme ça, une espèce de morosité insupportable. On s'emmerdait, excusez-moi. Mais c'est vrai, les choses sont devenues plus intéressantes. Il se passe tout le temps quelque chose qui mérite examen, qui mérite qu'on en discute, qui mérite qu'on en parle. On ne s'ennuie plus autant. Et c'est le signe que largement, il y a des tas de gens qui posent des bonnes questions. Ce qui manque encore, c'est les bonnes réponses. Mais les bonnes questions sont très souvent posées. Alors, moi, j'ai du mal à le dire, mais il faut attendre un peu, mais pas trop, parce que c'est un peu tard pour moi.
Vous voulez dire que vous êtes pressé d'assister à ce printemps-là ?
Quand j'étais jeune député, le père Cachin était, il avait 80 ans, c'est-à-dire que maintenant ce serait un jeune homme pour moi. Mais à l'époque, c'était un très vieux monsieur. Et alors nous étions quelques jeunes intellectuels comme ça, et ça lui plaisait de retrouver sa propre jeunesse.
Marcel Cachin, c'est ça ?
Marcel Cachin, le dirigeant communiste. Et alors de temps en temps, il nous prenait par le bras comme ça, il disait... Il faut y aller, il faut vous dépêcher. Moi, je veux le voir, le socialisme. Et nous, on trouvait que c'était bien.
Les vies militantes sont des belles vies. Entre quelqu'un qui passe sa vie à compter ses sous, ses propriétés, des trucs comme ça, et la vie d'un militant, j'ai pas l'ombre d'une hésitation. La vie militante est généralement une vie riche.
Voilà Maurice Criégel-Valrimont, qui à l'âge de 92 ans a disparu cet été. C'était un hommage que nous lui rendons, et une façon de commencer cette saison de là-bas, si j'y suis, donc à 15h désormais, mais aussi sur franceinter.com. Vous pouvez retrouver cette émission à 15h, ainsi que sur là-bas.org. Alors il y a eu une suite à cet entretien. François Ruffin a revu Maurice Criégel-Valrimont. Il y a eu toute une suite, et cette suite, vous pourrez l'écouter justement sur là-bas.org. Vous allez sur là-bas.org et vous pouvez aller plus loin. Il y aura ça de temps en temps dans là-bas si j'y suis. Avec cette rentrée, vous pourrez aller plus loin avec des suites de cette émission sur ce site. Et puis il y a aussi un texte à l'appui. Un auditeur a transcrit cet entretien, et vous pourrez le retrouver aussi sur là-bas.org ou sur fakir.com. fakir.presse.info. Vous savez que Fakir, c'est le journal de François Ruffin. Et bien sur fakir.presse.info, vous pourrez retrouver ces transcriptions et un texte de François Ruffin sur Maurice Criégel, Valrimont. Merci à tous. C'était Jean-Noël Vélan et Thomas Robin qui étaient à la technique aujourd'hui. C'est Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le Pascariello et de Christophe Imbert, toujours au répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Et puis le mail de l'émission, c'est daniel.mermer@radiofrance.com. Il est 16h sur Inter, réclame.